Alors, je suis désolé pour les messages d'auditeurs. J'ai oublié de recharger mon très très vieux téléphone ce matin. Et sa batterie a tendance à se vider comme un pull qu'on effiloche. Donc, peut-être que
vous
je vais être
bien,
coupé.
Pardon? Vous voulez mon téléphone?
Ah, ben non, parce que vous n'avez pas mon compte Twitter. C'est là que ça... Si vous voulez réagir, c'est sur mon compte Twitter. Stéphane Carcillo, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, responsable de la division Revenu Travail de l'OCDE, professeur associé à Sciences Po. Vous avez co-écrit Les discriminations au travail aux presses de Sciences Po. Éric Ayer, bonjour.
Bonjour.
Directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, membre du Haut Conseil des finances public, et vous avez coécrit « Une autre voie est possible vers un modèle social écologique » chez Flammarion Champs Actuels. Emmanuel Combes,
bonjour,
bienvenue. Professeur à la Schema Business School, vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages. Et alors, le Précide Économie, qui est un manuel, hein, le Précide Économie, 16e édition. C'est celui-là que vous avez écrit pendant le service militaire ?
Oui.
Je trouve ça fascinant.
Il faut bien s'occuper.
Il va au service militaire, il s'ennuie, il écrit un Précide Économie, qui est un livre de référence depuis combien d'années ?
1993, l'âge de mon service militaire.
Joli, joli, joli. Jean-Marc Daniel l'apprécie beaucoup, votre Précide Économie, parce qu'il en a écrit aussi. Pourquoi il faudrait... Alors, je vous donne les news hein, sur la réforme des retraites. Ok, on va concerter, pas négocier, concerter. Visiblement, c'est ce qui ressort de ce dîner. Il y avait plein de monde. Donc, plus il y a de monde, plus il y a de gens qui causent. Donc, on va concerter, mais la borne d'âge est bien destinée à être déplacée à 64 ans en 2027 et à 65 ans en 2031. Voilà. Alors, les éléments de concertation porteraient sur la question des carrières longues et de la pénibilité. Quant à savoir quel est l'outil législatif utilisé pour faire passer la réforme, tout peut arriver. La question, c'est pourquoi réformer, Éric Ayer ?
Oui,
pourquoi ? Moi, j'ai ma réponse.
D'accord. Alors, enfin, une première façon d'y répondre, c'est regarder la situation du système de retraite. Alors, donc là, le corps nous a donné la dernière photographie. Donc, que nous dit, enfin, quelle est ma lecture, en tout cas, de cette photographie ? C'est que, bon, il n'y a pas le feu au lac. D'accord ? Il y a globalement, le système est relativement maîtrisé dans ses dépenses, puisque même dans le pire des scénarios, bon, la dépense des pensions, ça va représenter 14 points de PIB. C'était 14 points de PIB aujourd'hui, ça va être 14 points de PIB à quelque chose. Et il y a quand même une grande probabilité que ça soit en dessous. Donc il n'y a pas de dérapage du côté des dépenses, mais tout de même, il y a un déficit.
Qui se creuse, nous dit le corps, année après
alors,
année.
Oui, alors ça dépend encore une fois des hypothèses, mais c'est peut-être ça la meilleure réforme, c'est qu'on n'ait plus cette incertitude sur notre système à 20 ans. Et cette incertitude, c'est en fonction de la productivité du travail. Et ça, c'est à cause de la réforme de 93. Je pense qu'il faudrait revenir sur cette réforme de 93, Balladur.
Vous nous rappelez ?
C'est-à-dire que globalement, avant, les pensions et les recettes étaient indexées sur les salaires. Donc, quel que soit le niveau de productivité, il n'y avait pas de problématique. Est-ce que ça allait être plus ou moins fort ? Maintenant, depuis 1993, les recettes, c'est toujours indexé sur la productivité et les salaires, d'accord ? Alors que les pensions sont indexées sur les prix.
Les prix.
Et donc, du coup, c'est vrai que selon le niveau des salaires par rapport à l'inflation, vous pouvez avoir soit un gros déficit, soit des excédents. Vous voyez, c'est quand même curieux, quand même, qu'on ne sache pas dire, là, aujourd'hui, est-ce qu'on va avoir, on peut être en excédent de notre système de retraite sans réforme ?
Oui.
Selon certaines hypothèses, c'est possible. Bon, ça, c'est pas normal. Il faudrait qu'on remette une indexation sur les salaires des pensions. Voilà, ok. Donc ça
serait... C'est ça la réforme,
en fait. Ça serait une réforme, en tout cas, qui nous permettrait de voir plus clair sur quel est le bilan. Ok. Donc ensuite, quand on voit cela, on dit le plus probable, c'est que la productivité soit à 1%. Allez, c'est dans le scénario, pour moi, c'est le plus probable. Et là, dans ces cas-là, il y a un déficit. Un déficit d'à peu près un demi-point de PIB de façon structurelle. Donc, vous voyez, la première façon de répondre à votre question, c'est il faut trouver un demi-point de PIB, c'est à peu près 10-12 milliards, d'accord, pour répondre, parce qu'effectivement, le régime des retraites...
Borne d'âge !
Ne doit pas
être... Borne d'âge !
Parce que oui, c'est important, le régime des retraites ne doit pas être déficitaire.
En théorie, une assurance n'est pas déficitaire.
Exactement. Donc, du coup, alors, transitoirement, oui, ça peut l'être, mais structurellement, non. Donc, effectivement, il faut une réforme pour trouver, mais... 0,5 points de PIB, c'est à peu près ça la réforme. Et donc c'est là où il faut maintenant entrer, il y a les paramètres standards, bien entendu. Alors attention, pourquoi on arrive, alors qu'il y a plus de retraités demain, à avoir des dépenses qui sont contenues à 14 points de PIB au maximum, mais sans doute le plus probable en baisse, c'est parce qu'on fait déjà baisser les pensions. D'accord, les pensions, il faut bien le dire à tous les auditeurs, aujourd'hui sans réforme, les retraités vont perdre à peu près 20% de leur pouvoir d'achat relatif aux actifs. Bon, c'est un choc qui est quand même assez violent. Donc soit on continue là-dedans, c'est-à-dire qu'on paupérise encore un peu plus les retraités, soit on demande aux actifs un petit effort, soit via les cotisations.
Chaque fois, le gouvernement dit non à ces deux pistes.
D'accord. Alors que, vous voyez, Michaël Zemmour fait son calcul, c'est vrai qu'il est relativement correct, c'est il faudrait 2 euros... Enfin, en tout, 4 euros d'augmentation des cotisations par mois, par salarié. Bon, vous voyez, c'est pas un choc non plus extraordinaire, mais c'est vrai qu'en période de baisse de pouvoir d'achat, ça serait un peu sans doute
le message difficile. On a un problème de salaire net et on va encore vous le réduire.
Ok, c'est donc dur. C'est vrai, même si mais c'est, oui, pas, c'est, même si c'est pas la hauteur du problème, c'est 4 euros. Hein. Bon. 4, c'est pas non plus énorme. Vous voyez, c'est pas comme on entend, le système des retraites va dans le mur, c'est alors, la faillite.
Pour avancer,
etc.
Pour avancer,
c'est
4 oui,
euros.
Pour avancer.
Et d'accord, et après, du coup, il y a les deux bornes. C'est soit l'âge, soit la durée.
Ouais.
Et ça, je pense que... Enfin, je vais laisser la parole, mais moi, j'ai une idée. Mais je pense que le plus efficace, c'est la durée. Le plus efficace et juste, c'est la durée. C'est absolument pas l'âge, parce que l'âge, ça ne va absolument pas mordre sur le taux d'emploi des personnes qui pourraient travailler plus. Vous voyez, je le dis juste en un mot. Moi, on a tous... Enfin, beaucoup d'entre nous ont fait un bac plus 4, un bac plus 5. Vous voyez, là, que vous augmentiez l'âge de 62 à 65, ça ne va rien changer. On a commencé à travailler à 22 ans.
Oui, oui, je vois ce que
22
vous dire.
Plus 43 oui, oui. Égale 65. De toute manière, ça ne changera rien. Ça va juste demander plus d'efforts à des salariés qui ont commencé à travailler très tôt. Et ça, entre nous, c'est quand même pas très juste.
Alors là, il est certain que la durée de cotisation, c'est celle qui tient le plus compte de la durée de carrière, beaucoup plus que la borne d'âge. Et l'accélération du calendrier Touraine serait le truc le plus indolore à faire passer. J'achète bien l'explication. Après, à la question pourquoi,
il y a peut-être d'autres
à l'évidence, ce que ne cesse de répéter le gouvernement et ce qu'a dit Elisabeth Borne encore lundi sur BFM TV, on a besoin de sous pour faire le verre, pour faire autre chose, okay. L'école.
Okay, mais c'est pas les retraites.
Stéphane Garcio, par rapport à ce qui a été dit, est-ce qu'une réflexion vous vient, une opposition à suggérer par rapport à ce qu'a dit Eric hier?
Non, je pense que le vrai pourquoi, il y a évidemment le fait qu'une assurance ne doit pas être déficitaire et que donc du coup il y a des paramètres
un peu plus
à
près régler. Le micro, Stéphane.
Il y a également le fait que il faut voir l'ensemble des dépenses sociales. Aujourd'hui, il y a trois sources de déficit, hein, le budget de l'État, la santé, les retraites et puis de manière marginale l'assurance chômage. Aujourd'hui, si on veut investir dans l'école, si on veut revaloriser les salaires des enseignants, si on veut revaloriser les salaires des soignants, investir dans notre système de santé, préparer la transition, il faut de l'argent et ça, ce sont des dépenses d'ailleurs, je dirais, qui investissent dans le futur, dans notre santé, dans l'éducation et les compétences de nos jeunes.
On va les qualifier d'investissement et pas de fonctionnement.
Voilà. Et dans ce système, on a beaucoup de besoins, sachant qu'on est déjà à un taux de prélèvement obligatoire maximum et un taux de déficit relativement élevé avec un taux de dette qui monte. Il faut trouver des endroits où on fait des sources d'économies pour réduire les déficits existants.
C'est super rationnel ce que vous dites là.
Et en gros, on va là où il y a des grosses masses. Et là où il y a des grosses masses, en particulier, c'est sur le long terme, c'est la retraite. Donc c'est logique. Et des différents paramètres, il y en a effectivement deux qui ont un effet important parce qu'ils jouent à la fois sur les cotisations et sur les dépenses. C'est la durée de cotisation, les trimestres, et puis l'âge. Alors, je suis un tout petit peu en désaccord avec ce que vient de dire Eric hier sur durée versus âge. L'âge a un avantage, c'est que c'est un point focal.
C'est ça. C'est comme une anticipation d'inflation.
C'est beaucoup plus clair pour tout le monde d'avoir ce point focal qui augmente parce que toutes les anticipations, y compris, vous avez les nombres de trimestres, les gens ne les connaissent même pas.
Ouais.
Donc, ils le connaissent quand ils vont sur le site pour faire des simulations. L'âge, c'est très très clair et du coup, ça les projette dans un âge de retraite normal. Alors, modulo les carrières longues, la pénibilité, etc.
Je ne sais pas ce qu'on peut trouver comme solution pour les carrières longues si la borne bouge.
Mais c'est très important pour les individus pour se projeter et savoir qu'ils vont rester sur le marché du travail, qu'il faut investir, qu'il faut peut-être se former, faire un mouvement de carrière, etc. C'est aussi très important pour les entreprises. Parce qu'elles savent que quand elles investissent dans quelqu'un elles embauchent quelqu'un qui a 50 ans, il y a encore potentiellement, il y aura potentiellement non plus 12 ans, mais 14 ou 15 ans, et que du coup, ça vaut le coup d'investir. Alors, cet effet focal, il faut pas le sous-estimer, à mon avis. C'est
il
la
a
raison
été vérifié
pour laquelle...
par le passé. Quand on regarde la Fillon 62 ans, on voit bien que ça a eu cet effet que vous
voilà.
décrivez.
Voilà. Et alors,
il est pas d'accord.
Alors, non, mais c'est très très dur.
On fait pas toute l'émission dessus, hein.
Non, mais c'est dur de savoir ce qui, dans l'augmentation des trimestres et dans l'âge, a provoqué l'augmentation du taux d'emploi. Ce qui est certain, c'est que le taux d'emploi des seniors a augmenté de manière continue et on sait que c'est lié aux réformes des retraites. Ce qui est certain aussi, et là c'est un peu quelque chose qui un petit peu contrebalance la réforme des retraites, c'est qu'il faut prévoir des mesures d'accompagnement en plus. Parce qu'on sait que quand on augmente la durée de travail, pour 50% des salariés, c'est possible de rester en emploi. Pour 50%, aujourd'hui, au moment où vous le faites, en tous les cas, c'est-à-dire que dans les années qui suivent, les gens sont pas très bien préparés. Peut-être que quelques années suivent, plus tard, les générations d'après sont mieux préparées, mais au moment où vous le faites, il y en a quand même 50% qui ne restent pas en emploi. Et il y en a environ 20% qui vont vers le chômage. Parce qu'on a aussi un système de chômage plus long pour les seniors.
36 mois et pas 24.
Et 30% qui vont vers l'invalidité. Et donc, on fait des économies. C'est clair, il ne faut pas sous-estimer qu'il y a aussi
les
un
dépenses,
petit coût,
parce bien sûr.
Il y a quand même des dépenses qui se rajoutent, donc en net, les économies sont un peu plus faibles, c'est très clair. Et en gros, il faut vraiment prévoir aussi un plan senior et en accompagnement de cette mesure pour simplement aider les gens à rester en emploi.
La conclusion de ce que vous dites tous les deux, c'est oui, il faut bien faire quelque chose, quoi.
Oui.
Bah oui. On va aller, je sais pas si Emmanuel veut rajouter un truc.
Non, mais simplement peut-être pour élargir le sujet, je suis moins expert que Eric et Stéphane sur ces sujets, mais le maître mot derrière tout ça, c'est taux d'emploi quand même.
Ah bah oui.
Et on sait que le taux d'emploi en France, de mémoire, il doit être à peu près dans la moyenne de l'OCDE, hein, 67%, quelque chose comme ça.
Un petit peu en dessous,
Hein.
67 contre 69.
Ouais. Donc si on regarde par rapport aux pays du sud de l'Europe, c'est clair qu'on est plutôt bon. Mais si on regarde par rapport aux pays nordiques, et là, j'ai l'impression qu'on traite le sujet par la fin de carrière. Il y a aussi la réforme de l'assurance chômage qui a aussi un impact sur le taux d'emploi, mais on parle finalement assez peu de l'entrée dans la vie active, et je pense en particulier aux décrocheurs scolaires, qui est un vrai sujet. Si on veut augmenter le taux d'emploi, il faut agir sur la fin de carrière, mais aussi sur le début de carrière. Et là, on a un sujet, je ne sais pas si vous avez vu l'article dans les Échos sur le niveau en lecture des élèves. La question lancinante des décrocheurs scolaires, c'est aussi indirectement un facteur qui explique le fait qu'on ait un taux d'emploi qui n'est peut-être pas celui qu'on pourrait avoir.
Alors je vous fais réagir, Eric Besson. Ça m'a fasciné. C'est le dispositif CEDRE du ministère de l'Éducation nationale. Qui a remis ses conclusions. Le niveau en français baisse au collège. L'écart filles-garçons se creuse en faveur des filles, mais l'écart a doublé depuis 2015. Et 40% des collégiens en troisième disent qu'ils n'ont pas le courage d'entamer la lecture d'un texte d'une page. Et alors, quand vous regardez ceux qui sont en retard, trop âgés par rapport à l'âge normal, il y en a de moins en moins qui sont en retard. Mais ceux qui sont vraiment en retard, là, les difficultés explosent. C'est très impressionnant. Pour conclure le sujet des retraites, oui, peut-être, Éric Guillard, mais il y a un truc qui...
Bon. Oui, parce qu'en gros, globalement, le problème, ça a été dit, c'est le taux d'emploi.
Oui. Oui,
si vous voulez financer, comme le dit Stéphane, un certain nombre d'autres dépenses, d'accord, c'est avec le taux d'emploi qu'on va y arriver. Si on veut financer même les retraites, c'est avec le taux d'emploi. Donc, tout est une question de taux d'emploi et on a des difficultés au début de la distribution et à la fin de la distribution. Ok, on le sait. Là, moi, ce que je trouve, c'est qu'on le vend à l'envers. C'est qu'on nous dit, on le fait pour le système des retraites. Non, on ne le fait pas pour le système des retraites. C'est comme l'assurance chômage, on ne le fait pas pour l'assurance chômage. On le fait pour d'autres raisons. Alors, pourquoi pas dire...
Mais on l'a dit.
Pourquoi pas dire, donc du coup, on fait une réforme pour augmenter le taux d'emploi. D'accord, c'est ça notre réforme. Mais alors du coup, on le prend différemment. On n'est pas en train de dire, tiens, les retraités sont des privilégiés ou les actifs, machin. On ne dit pas les chômeurs sont des feignants ou pas. On dit, on va essayer d'augmenter le taux d'emploi. Donc comment on fait? On a des difficultés au début, d'accord? Et on va essayer de qualifier les jeunes. On a des difficultés à la fin. Donc on va travailler sur les conditions de travail, sur la pénibilité. Donc du coup, on prend le problème à l'envers. D'accord? Et ça, moi, je pense que ça serait bien plus juste, bien plus clair de nous dire, on a un objectif, c'est d'être à 70 points de taux d'emploi.
J'entends,
et on fait toutes les politiques. Oui. Et si dedans, il faut augmenter l'âge de départ à la retraite parce qu'on m'explique et on me certifie que c'est ça.
Ça devient un élément.
Ça devient un élément. Alors que là, on nous dit, c'est notre système de retraite est en faillite. Mais non.
C'est super important.
Non, mais la façon de dire.
Oui, mais c'est tout. La façon,
je vais être un peu vulgaire. La façon de raconter l'histoire.
Bah, non, c'est pas qu'une histoire.
Mais oui, je sais bien. Je suis un peu.
C'est revenir quand même à la macro de base. Enfin, pardon, le taux d'emploi, c'est agir sur la quantité de travail. La croissance, elle dépend
de la productivité. Combien il y a de bras qui travaillent par rapport au nombre de bouches à
l'ouvrir. Pour expliquer que la productivité est quand même très faible, Eric l'a dit tout à l'heure, de l'ordre de 1% dans les meilleures prévisions. Après, on peut agir sur la productivité à très long terme, notamment via la concurrence, c'est un autre sujet. Mais à productivité donnée, il n'y a pas 50 000 solutions pour accroître la croissance potentielle, c'est augmenter la quantité de travail. La quantité de travail, ça s'appelle grosso modo le taux d'emploi. Si on racontait cette histoire-là, que je pense tout Français peut comprendre quand même, que la croissance, ça dépend de trois facteurs, l'investissement, la quantité et la productivité. Là, en effet, la réforme des retraites ne devient qu'un moyen.
Oui,
ça sert de brainstorming en direct à la radio et la télévision.
Non, bien sûr, mais sauf que effectivement, quand il s'agit d'augmenter le taux d'emploi des seniors, on a encore 10 points de retard par rapport à la moyenne de l'OCDE. On est à 50% par rapport à 60% sur les 55-65 ans. Et on a augmenté ce taux d'emploi de 10 points. En 10 ans, quand même, pratiquement. Donc, et les études montrent qu'en fait, le facteur numéro 1 pour faire ça, le facteur numéro un, de premier ordre, c'est la durée de cotisation slash l'âge, parce qu'on ne sait pas très bien lequel des deux, probablement la durée, parce que c'est ce qui a le plus bougé en France. Les mesures d'emploi, les mesures d'accompagnement, etc., elles sont très importantes, mais elles jouent probablement en second ordre. Elles sont essentielles, mais elles jouent probablement en second ordre. Donc, ça veut dire que même avec cet objectif, sachant que on a un problème aux deux âges, aux deux extrémités de l'âge actif, c'est un paramètre vraiment important.
Je suis terrifié parce que je faisais mon calcul dans ma tête. Moi, c'est 67 ans, là.
Mais tout le monde le fait. C'est pour ça que je suis pas complètement d'accord. À partir de 50 ans, on vous envoie une lettre.
J'ai dû commencer à 25 balais.
Et on vous dit, à partir de 50 ans, combien vous avez déjà cotisé. Donc, tout le monde sait faire un calcul comme ça. Et moi aussi, je l'ai fait. C'est 67 ans. Donc, du coup, on parle de 65 ans. Ça ne va pas me toucher. Et c'est ça qui est quand même très injuste dans cette réforme.
Mais bon, alors, admettons que l'idée de concerter sur les carrières longues et la pénibilité peut déboucher sur quelque chose. Si des gens ont des bonnes idées. Je sais pas s'il y a des bonnes idées, mais.
Entre nous, enfin, il y a l'autre statistique, mais qui a été un peu déjà dite par Stéphane, mais 35% des personnes qui prennent leur retraite, c'est pour des raisons médicales, à 62 ans, 35%. Oui, donc en gros, c'est parce qu'on n'est pas bien dans le travail, on est fatigué, on est pénible, qu'on ne peut pas travailler plus longtemps. Donc vous pouvez dire, mais si tu vas travailler plus longtemps, raisons de santé.
J'ai pas de données chiffrées, statistiques, mais... Est-ce qu'en France, on est plus usé par le travail que dans les autres pays qui sont voisins? Je sais pas, parce que on a l'impression que c'est le sujet numéro un et que la vie en bonne santé, c'est dramatique. Je sais pas, comment font les autres qui ont mis des âges à 65, 67 et qui...
Ils ont prévu aussi des clauses, des dispositifs qui permettent de sortir.
Oui.
Ce qu'ils ont en revanche évité de faire, c'est dans la plupart des pays qui ont ces dispositifs qui permettent de sortir plus tôt avec un taux plein, on évite de le faire par filière. Ou par secteur, ou par métier. Parce qu'en fait, dans ces cas-là, on recrée des sortes de régimes spéciaux. On essaie de le faire vraiment sur conditions médicales, exposition à des risques très très précis, ou sur des conditions médicales qui sont bien certifiées. Voilà. Donc c'est vraiment individualisé. Ça, c'est un peu l'enjeu de la gestion de la pénibilité.
On avait fait
les carrières longues, c'est autre chose. C'est des gens qui ont commencé à travailler très très tôt, mais sur la pénibilité, là, pour le coup, il faut éviter de recréer toutes sortes de régimes, des multiples régimes spéciaux.
On avait fait des critères de pénibilité, je sais plus trop où on en est, il y en avait 10 ou 11. C'était, les entreprises disaient, c'est ingérable. Si vous êtes sous l'eau, si vous portez des charges lourdes,
c'est très dur à gérer, bien sûr.
Bon. Mais oui, non, mais juste un mot, parce que j'y reste 40 secondes, apparemment. Mais
c'est un professionnel, Eric, hier. Maintenant, il gère le temps comme moi.
Il y a des enquêtes, quand même, sur la valeur travail, etc. Vous voyez, en gros, je le fais vite, c'est sur 180 pays. Quand on pose la question dans tous les pays, où est-ce que vous mettez la valeur travail? Les Français, c'est tout en haut. J'ai plus le classement, mais c'est tout en haut. En revanche, la question, c'est est-ce que vous épanouissez au travail? C'est tout en bas.
C'est super important, ce
guide. Mais oui, et donc, du coup, vous voyez, peut-être la meilleure des réformes, c'est retravailler sur le management. Comment, dans l'entreprise, on essaye d'intéresser les personnes.
C'est quand même super documenté, ça, en sociologie, le rapport au travail, non pas au travail, le rapport à l'entreprise, avec l'idée que c'est une malédiction. Et ça, c'est quand même la manière dont fonctionnent nos relations de travail, nos relations sociales.
Mais de la même manière que la crise que nous traversons va précipiter la transition verte, ce qui va précipiter ce que vous décrivez, ce sont les attentes nouvelles des jeunes recrues. Quand on demande au cabinet de recrutement si les choses ont changé, c'est même pas les choses ont changé.
Non, c'est la révolution.
La volte-face de ce qu'attend un jeune 2022 pour rentrer sur le marché de l'emploi. Bon, évidemment, peut se permettre d'avoir des attentes s'il a un bac plus quelque chose.
C'est ça la meilleure réforme. C'est se préparer
à meilleure...
les taux d'emploi vont augmenter.
Vous êtes suffisamment expert, Eric, pour savoir que les réformes, tous les sujets sont multifactoriels.
Oui, bon,
voilà. On va dire un mot de l'assurance chômage. Bon, on va essayer d'aller vite parce que je connais le point de vue de Stéphane Carcillo. Il est très renseigné sur le fait que le paramètre qui a un effet, c'est la durée de cotisation et seulement la durée de cotisation. D'indemnisation. Et nous indemnisons plus que les autres, 24 mois jusqu'à 36 mois pour les plus âgés. Mais voilà. Et alors là, je vous interrogerai sur l'idée de faire des paramètres variables en fonction des régions. Parce que si vous êtes en Vendée, il y a le plein emploi. Et si vous êtes à Amiens, c'est pas le cas.